Alors, une émission un peu spéciale aujourd'hui d'histoire de voir, histoire au pluriel, hein, c'est celle que l'on consacre à Abdulrahman Khalouf qui nous a quittés il y a presque un mois hein, maintenant. Aujourd'hui, dans Histoire de voir, histoire au pluriel, va rendre hommage à cet homme qui est un poète, qui est un écrivain, un dramaturge, un metteur en scène et puis quelqu'un qui était surtout un poète. Et donc, nous, c'est aujourd'hui notre émission. Demain, dans le guide du Bordeaux colonial, on aura aussi un point qui sera fait et je pense que nos amis de la Clé des Ondes, les journalistes qui l'animent, lui consacreront aussi un moment parce qu'il était syrien d'origine et qu'à ce titre, il avait toute une expérience à la fois sur le pays et aussi sur un parcours qui l'avait amené à Bordeaux auprès de Florent Viguier, qui est un ami à lui et qui a surtout été... ils ont fait des créations théâtrales, on en a beaucoup parlé ces dernières années ici même. Donc, plutôt que de grands discours, on va laisser la place à Florent parce que de nombreuses questions se posent, bien sûr, quant à la continuité de son travail, de ses relations avec Élise Moniaux, qui, justement, vous l'écouterez tout à l'heure, l'accompagnait dans son travail créatif et culturel. Et donc, Florent, si tu veux dire quelques mots, parce qu'il faut regarder vers l'avenir toujours, voilà.
Oui, donc merci effectivement de me donner l'occasion de parler de l'avenir. On restera, bien sûr, on aura plein d'occasions d'entendre ces textes, de l'entendre lui, hein, puisque bon, effectivement, c'est la magie de notre époque où on peut conserver les voix des gens, notamment grâce à la Clé des Ondes, voilà. Mais c'est vrai aussi dire que tout ce qu'il avait fait ces dernières années, moi, ça faisait 6 ans que je travaillais avec lui, et on a fait donc 3 projets forts ensemble. Le tout dernier, c'était au mois de janvier dernier, donc c'est vraiment tout, tout récent. Et de fait, l'idée, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. De la même manière qu'un Rimbaud, le jour de sa mort, était tout à fait encore inconnu, il y avait déjà quelques aficionados, des amis qui voulaient faire vivre son nom. Bien sûr, on se situe aussi dans cette perspective-là. Effectivement, certains de ces textes ne sont pas édités, un certain nombre, on veut essayer de travailler, notamment par ce biais-là, à faire durer sa mémoire. Il y a ses mises en scène, donc la toute dernière, je dis au mois de janvier, voilà, mais voir son travail. Bien sûr, Élise Moniaux, qui était sa compagne et comédienne à la scène, donc à la vie et à la scène, l'accompagnait. Donc, elle va aussi continuer ce travail-là avec le collectif Estragon. Chacun va y prendre sa part. Donc, moi, je voulais vous dire déjà qu'effectivement, sur la Clé des Ondes, sur le site de la Clé des Ondes, il y aura un petit QR code qui permet, ceux qui veulent soutenir, aider à la publication de ces textes. Certains de ces textes sont disponibles, bon, directement si vous allez chez Mola ou à la machine à lire, on peut les trouver. Certains sont à venir, on fera ce qu'on peut pour le faire vivre. On fera aussi un temps mémoriel plus tard, on a besoin de ce temps-là, mais de toute façon, on s'inscrit dans un temps long. Même si ça commence dès demain matin, hein, c'est extrêmement difficile pour nous. Dès jeudi, on va jouer un texte qui avait mis en scène que moi j'avais écrit. Hein, donc on va aller à Bergerac le présenter. C'est extrêmement difficile. On a des conditions qui ne sont pas évidentes, puisque effectivement, évidemment, avec une maladie courte, mais qui a bloqué la dernière semaine tout le travail de répétition, etc., etc., tout s'est arrêté. Et puis on est dans le chagrin, c'est pas facile. Mais on veut aller au bout de cette histoire-là et on veut regarder en avant pour faire vivre cette mémoire.
Écoute, merci Florent. De toute façon, tu t'exprimeras demain sur la Clé des Ondes, hein, dans le guide du Bordeaux colonial, dans l'émission. Et puis, comme tu le dis, il faut laisser le temps au temps. Et donc, on ne lâchera pas l'affaire. Donc, vous verrez sur le QR code là, de notre émission, là, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations hein, pour aider à la parution de ces ouvrages. Alors l'émission du jour, elle est consacrée eh bien, à une création qui avait eu lieu déjà il y a 2 ans, qui a été présentée à de nombreuses reprises, et plus particulièrement lors de la semaine que nous avions organisée sur Exil, il y a exactement un an. Et on y parlait d'Arthur Rimbaud, Donc on y parlait d'Arthur Rimbaud et puis aussi de la Commune de Paris, parce que Arthur Rimbaud avait été fortement impacté en fin de compte par cette commune. Il n'a pas participé directement, mais il a toujours supporté la révolte et la colère parisienne. Et on parle donc aussi avec Abdulrahman Khalouf et puis Élise Moniaux, eh bien, de leur travail sur Une saison en enfer du fameux Arthur Rimbaud. Donc vous allez voir, c'est un peu émouvant. Et puis je vous laisse tout de suite avec un poème que nous a récité Abdulrahman sur un précédent ouvrage qu'il avait fait, qui se termine par ce fameux terme, Je suis un clown. Voilà, et ben nous sommes tristes comme souvent ce sont les clowns, hein, par son départ et très trop, très rapide. Voilà, on embrasse Élise, on embrasse sa famille, son fils, qui sont bien sûr comme nous atterrés par ce qui s'est passé. À très vite, donc on vous laisse avec Abdulrahman.
Le recueil, il s'appelle Un palmier dans un champ de mil. Merci à mes chaussures qui m'ont mené jusqu'ici, où l'on ne mange ni hirondelles ni papillons. Je n'ai jamais appris à marcher. À peine né, j'ai eu les chasseurs aux trousses. Le premier son entendu, l'aboiement des chiens à mes basques. Depuis, je n'ai jamais cessé de courir. Quand je suis arrivé, on m'a ordonné de ralentir le pas, de ne pas effrayer enfants et femmes enceintes. À peine me suis-je mis à marcher que le vertige m'a pris et je suis tombé tête première devant le cirque. Tous applaudissaient, tous riaient, et j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'étais le clown.
Jean-Pierre et moi-même vous y accueillons en direct sur ce bateau ivre où l'homme aux semelles de vent nous rend visite pour nous parler d'une saison en enfer. Oui, nous avons nommé monsieur le poète Arthur Rimbaud, éternel jeune homme mystérieux avec une soif d'amour inassouvie. Oui, interrogeons-nous avec le poète qui disait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais après tout, ajoutait-il, le monde marche, pourquoi ne tournerait-il pas ? » Rêvons-nous aussi. Notre émission du jour lui est consacrée. Avec deux invités, le metteur en scène, écrivain, poète, lui-même, Abdulrahman Khalouf, et la comédienne Élise Monieux, ici présente, qui nous propose les 15 et 16 décembre à 20h30, je me suis trompée ou pas ?
Élise Monieux.
D'accord, voilà. Déjà, et c'était bien 20h30 ?
Oui, c'était bien 20h30.
On est OK. Et le dimanche 17 décembre à 16h, au théâtre Le Levain de Bègle, une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Ben, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à Jean-Pierre et bonjour à Roa qui est venu nous rendre visite.
Quand on pense être en reste, Céline nous parlera du regard de Rimbaud sur la Commune de Paris. Histoire, théâtre, poésie et musique nous accompagneront pour cette traversée sur notre bateau ivre de Histoire de voir, histoire au pluriel du jour. Alors avant de commencer directement et laisser la parole à Céline pour ce Rimbaud et la Commune, eh bien, moi, je voulais, pour illustrer un peu notre émission, j'ai cherché quelques titres et par hasard, je suis retombé sur une chanteuse qui s'appelle Valérie Lagrange et qui chante une chanson qui s'appelle Bateau ivre dans un album qui s'appelle Congo et qui est sorti en 2003. Alors, cette Valérie Lagrange, elle est très intéressante parce que c'est une. On peut dire qu'elle est très rimbaldienne, en fin de compte, dans sa vie. Elle est née en 42 à Paris. Et d'abord, était comédienne. Ensuite, elle a découvert la chanson et elle a beaucoup fréquenté le milieu des musiciens. Alors, je ne vais pas vous faire une biographie à la Wikipédia, mais enfin, bon, vous pouvez toujours aller voir. Hein, c'est Valérie Lagrange. En 2004, où son disque avait été récompensé aux Victoires de la musique, elle disait. Le profit, ce monstre insensible et cruel, est devenu la valeur phare sur notre planète. Il est en train de faire régresser notre dignité d'êtres humains vers la barbarie. Il génère de plus en plus de détresse, de misère, d'injustice et de haine à travers le monde au profit d'une minorité qui, elle, s'enrichit outrageusement chaque jour. On préfère nous laisser croire que le problème crucial aujourd'hui en France est de porter le voile ou non à l'école. Alors que chaque jour, de nouveaux plans sociaux qu'on a eu le cynisme absolu de qualifier de dégraissage sont vécus à tort comme une fatalité par ceux qui n'ont pas à les subir et qu'un million d'enfants, rien qu'en France, vivent sous le seuil de la pauvreté. Il semblerait que nos dirigeants aient oublié que le désespoir et la frustration des gens ne peuvent être contenus indéfiniment par la répression ou l'indifférence. Le mécontentement profond est comme l'eau. On peut le contenir par des barrages artificiels, mais le jour où la pression devient trop forte, les barrages cèdent, même les plus puissants. Quand on ne respecte pas l'humain, l'histoire a toujours montré qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous respecte. « Je vous en supplie, disait-elle, réveillons-nous, ceci est un cri du cœur et rien d'autre. » Donc ça, c'est écrit en 2004, 20 ans après, la situation est même quasiment pire. Voilà, on va l'écouter, cette Valérie Lagrange-là, ne pas confondre avec Dominique Grange, qui est aussi une chanteuse engagée.
L'amour, c'est fou, ce que ça fait faire, les pires conneries. Ça peut même faire la guerre à ceux qui ne font pas les mêmes prières. Alors l'amour, ça peut donner le coup du sang, ça peut tirer sur un enfant, faire émerger de nous le pire des choses qu'on ne l'amour, c'est comme une maladie. Au grand jamais, rien ne guérit. Ça vous travaille, ça vous tenaille, et ça ne vous laisse aucun répit. Parce que l'amour, ça vous emporte, ça vous envole. Si on médiocrité, c'est comme un gouffre qui s'est creusé depuis l'enfance au fond du cœur et qu'on ne peut jamais combler. Vertigineuse la profondeur, cet amour-là, c'est la seule raison. C'est la seule raison qu'on ait de vivre. Le reste n'est qu'une illusion. La seule vraie révolution pour amener au port ce bateau.
Eh bien voilà, bon, pour ceux qui connaissaient Valérie Lagrange, hein, c'est un souvenir. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, ben c'est peut-être une découverte. Alors Céline, tu dois parler maintenant, comme tu nous l'as proposé la semaine dernière, d'Arthur Rimbaud et La Commune.
Oui, sujet qui te tient à cœur d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Ben oui, complètement.
Alors, place de la gare à Charleville. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames auprès desquelles vont officieux Cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts des clubs d'épiciers retraités, qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent en somme. Alors, c'est un poème qui date de 1870 d'Arthur Rimbaud. Il était déjà en révolte. Il était donc sur sa place de Charleville, sa ville natale, où un concert militaire a eu lieu. Il faisait chaud. Les bourgeois viennent tous les jeudis, non pas pour écouter la musique, mais pour se montrer, montrer leur toilette. Arthur Rimbaud est déjà animé par des idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires. Il décrit dans ce poème la médiocrité de la bourgeoisie. Lors des événements de la Commune de Paris, il se jette corps et âme dans ce mouvement. Alors aujourd'hui encore, aucun témoignage, aucun écrit ne peuvent affirmer ou réfuter la présence d'Arthur Rimbaud à Paris pendant la Commune. J'ai cherché.
Non.
On ne trouve pas, oui.
Il voilà. est passé avant et après, mais ouais. pas pendant.
Voilà. Il serait resté à Charleville, sa ville natale. Il écrit même à Georges Isambard, son ancien professeur, « Colère folle qui me pousse vers Paris où tant de travailleurs meurent, pourtant encore, tandis que je vous écris. » Arthur Rimbaud était depuis jeune constamment en colère, révolté contre la bourgeoisie, le système, les injustices. Il choisit le camp des opprimés et de la contestation et adhère au combat pour changer la vie, disait-il. Dès l'âge de 14 ans, il s'exprime dans ses œuvres. Alors vous pouvez lire, il y a « Les étrennes des orphelins »,« Le soleil est cher », »,« Le forgeron ». Et moi j'ai choisi un texte, donc dans « Les étrennes des orphelins », si je le retrouve. Mmh. Ah oui. « Or, les petits enfants, sous le rideau flottant, parlent bas comme on fait dans une nuit obscure. Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure. Ils tressaillent, souvent à la claire voix d'or, du timbre matinal qui frappe et frappe encore. Son refrain métallique en son globe de verre. Puis, la chambre est glacée. On voit traîner à terre, éparse autour des lits, des vêtements de deuil. L'âpre bise d'hiver, qui se lamente au seuil, souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits-enfants. Donc on sent bien le froid, la solitude, voilà, la pauvreté surtout.
La misère, oui.
La misère. Et il y a aussi un texte dans Les Forgerons aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'il parle du roi Louis XVI. Il dit « Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle, pâle comme un vaincu, comprend pour le gibet et soumis comme un chien, jamais ne rejoint B. » Car ce maraud de forge aux énormes épaules lui disait de vieux mots et des choses si drôles. Et Arthur Rimbaud a rajouté aussi une phrase, celle-là je l'ai bien retenue, « Le peuple n'est plus une putain ». Il était vraiment révolté et en colère.
Mmh. Non, oui, ça s'entend, oui.
Ah, oui, oui. Il écrira aussi sur le colonialisme en Afrique du Nord, mmh. ce qui est un peu avant-gardiste, parce mmh. qu'à cette époque-là, je ne pense pas qu'on en parlait énormément. Ça t'intéresse
si, si. Oui, oui, tout à fait, oui. On en parlait, bien sûr.
Ouais.
Mais pas forcément pour le condamner, hein. Plutôt ouais. pour l'encourager.
Oui, oui. Hein. Il prend consciemment parti pour l'humanitarisme contre le conservatisme et l'ordre social imposé. Avec les communards, il dénonce une classe bourgeoise, lâche, qui préfère traiter avec l'adversaire afin de conserver ses pouvoirs et ses privilèges. Suite à la défaite de la Commune qui dura 72 jours, donc mmh. de mars à mai 1871, Rimbaud s'exprime avec rage et avec déception, parce que pour lui, il pensait que le peuple allait réussir, forcément. Et il a écrit plusieurs textes, comme « Les mains de Jeanne-Marie »,« Le cœur du pitre »,« L'orgie parisienne ». Mais il ne s'avoue pas vaincu. Communard il est, communard il restera. C'est ce qu'il disait. Hein. Mmh. Donc je vais vous lire, je choisis, hein, j'en ai plusieurs. « L'orgie parisienne ». J'ai beaucoup aimé celui-là. Il dépeint vraiment la vie à Paris, en fait, hein, des bourgeois. « Oh, lâche, la voilà dégorgée dans les gares. Le soleil expia de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblerèrent les barbares. Voilà la cité, belle assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà sur les maisons. L'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans les niches de planches. L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches. Soyez fous, vous serez drôles étant hagards. Tas de chiennes en rut, mangeant des cataplasmes. Le cri des maisons d'or vous réclame. Volez, mangez, voici la nuit de joie au profond spasme qui descend dans la rue aux buveurs désolés. Il ne s'avoue pas vaincu, je l'ai dit. Communard il est, communard il restera. Il suiva les exilés de la commune en Angleterre et en Belgique, accompagné de Paul Verlaine, son amant, pour donner des cours d'anglais et de français. Il va ensuite errer, écrire et vivre une saison en enfer.
Quelle belle transition.
Voilà.
Alors, il faut rappeler qu'en 71, il avait 17 ans.
Oui.
Et comme il le dit, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, ce qui prouve tout à fait le contraire avec ses préoccupations et sa solidarité avec les communards. Voilà, donc la transition. Merci Céline, hein. Merci pour ton travail de
merci
recherche.
Merci pour ces lectures.
Merci.
Et ces lectures. Nous recevons aujourd'hui Abdulrahman Khalouf, qui est un habitué d'étape, hein, puisqu'il a déjà présenté un précédent travail théâtral.
À plusieurs reprises.
Et même à plusieurs reprises. Et puis, une comédienne que nous découvrons, Élise Meugniot.
Meugniot, décidément.
Je vous ai fait exprès, là. Qui va jouer, justement, dans cette pièce qui va avoir lieu et qui s'appelle, comme le disait Céline, Une saison en enfer, du nom d'une des œuvres particulièrement connues, hein, de Rimbaud.
On n'a pas beaucoup d'œuvres, je pense, Une saison en enfer. C'est le seul œuvre, si je ne me trompe pas, et qui a choisi vraiment lui pour envoyer à une maison d'édition en Belgique. Et c'était, cette publication a été financée par sa mère.
Ouais.
Et donc c'est la seule.
D'ailleurs,
fois
ils n'avaient pas tout vendu. Il y en avait 150 exemplaires, je crois, qui étaient restés sans être vendus.
Ouais. Oui, après moi, bon, ce texte, je le connais bien avant d'arriver en France, puisqu'il est traduit à l'arabe par Adonis, c'est un très très grand traducteur. Et ce texte a été... il a quand même constitué un refuge par rapport à la pensée du monde arabe. Ça faisait écho, ce rapport avec la religion, ce rapport avec la politique, avec les élus, avec la société. Et comme la poésie, c'est une langue universelle. Donc, moi, étant jeune, ce texte m'a fasciné. Et après, à chaque fois, franchement, je suis hyper étonné, puisque je me trouve là, ici, en France, à travailler sur ce texte. Voilà, en vous voyant, par exemple, maintenant, interpréter ce texte, le lire, et je suis content, parce que tout d'un coup, je me dis, mais vraiment, c'était pas seulement un pouvoir d'un texte ancien, mais elle est toujours vivante, et il interpelle toujours.
Moi, je l'ai redécouvert, Arthur Rimbaud, parce que nous, à l'école, en France, on n'étudie pas les textes que j'ai lus, on étudie Le Dormeur du Val ou Le Bateau-Rive, mais on n'étudie pas les autres œuvres. Et j'ai redécouvert Arthur Rimbaud.
Oui, et bah, j'espère après vous allez venir aussi
à
la
venir.
Pièce.
Bah,
oui,
voilà,
vous allez découvrir un texte majeur, Une saison en enfer. Et puis voilà, si je peux me permettre un peu le relier avec mon travail, ancien travail de théâtre. Et moi, comme tu sais, donc, je suis dans l'écriture dramatique. Depuis 3 ans, en fait, j'écris des textes, ils sont entre poésie et théâtre, des poèmes narratifs. Donc j'ai travaillé sur Le Soldat Orphelin, que j'ai sorti au mois de janvier à la Mecca. Ici, j'étais accompagné d'un danseur, Jean-Philippe Costemuscat. Et au mois de juillet, j'ai joué aussi en théâtre de rue, un autre poème narratif comme ça. J'étais accompagné par une circassienne, Marie Mercadal. Et en fait, c'était des bonnes expériences. Je voulais, là maintenant, c'était le bon moment vraiment m'affronter à un texte où je me mets moi en retrait, parce qu'à chaque fois, en fait, je portais mes écritures. Mais là, il n'y a pas de raison, vu que je ne suis pas comédien. Après, je rencontrais Élise, je lui ai proposé le projet, et elle a adhéré. C'est pas évident de porter ce genre de texte.
Ah oui, après, non, là, au début, la première présentation, c'est vrai que je me suis dit, c'est magique comme rôle, entre guillemets, même si on est au-delà d'un rôle, mais j'étais paniquée, ça très clairement. Parce qu'en effet, c'est un texte majeur, c'est un texte qui, moi aussi, forcément fait écho à des choses. Je l'ai étudié, j'en ai étudié des extraits comme tout le monde, un peu au lycée, mais là, ça m'a permis évidemment de le redécouvrir. C'est un texte, lui-même Rimbaud dit de ce texte que c'est un livre païen. Donc c'est quelque chose d'extrêmement engagé pour lui. C'est un texte de torture d'adolescent. Il a 19 ans quand il l'écrit. On est en 73. Pas vraiment un poème dans l'ordre classique du terme. C'est un poème en prose. C'est pas une pièce de théâtre. Et en même temps, la proposition d'Abdulrahman, c'est d'en faire justement une œuvre dramatique. Donc là, comment est-ce qu'on joue ça? Comment est-ce qu'on s'approprie ça? Comment est-ce qu'on incarne en fait ça? Donc c'est vraiment, c'est extrêmement stimulant et extrêmement impressionnant au début quand on se trouve face à ce texte. En plus, les thématiques abordées,
Et absorbées assez, aussi.
Parce que forcément, on absorbe énormément. Sont des choses qui touchent, moi, qui m'ont vraiment porté. J'ai reçu une éducation traditionnelle, une famille de culture catholique. J'ai même fait ma confirmation. Donc, on va dire qu'au niveau culture religieuse, il y a ce qu'il faut. Et donc, toutes ces questions existentielles qu'il se pose, ces tortures sur les croyances, sur cette religion catholique qui est vraiment une religion qui, à mon sens, est quand même une religion qui enseigne beaucoup la culpabilité et la culpabilisation. Donc, il lui met une pression
terrible. Oui, parce qu'il disait justement, il se posait la question, suis-je damné?
Voilà, ouais, la question de la damnation, elle est vraiment très forte. Il a une peur de la mort, il a une conscience du temps, il a cette quête de salut qui est vraiment centrale, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de vivre, en fait, même. Donc ça, c'est des angoisses vraiment existentielles qu'on se pose dès l'adolescence. Donc, en cela, c'est vraiment un texte d'ado, aussi. Et puis, en même temps, il y a toute cette volonté de s'opposer aux structures établies, à tout ce qui nous saoule étant ado.
De ne pas rentrer dans une case. Ouais.
Voilà, trouver son identité. En même temps, il a aussi une vision sur ce qu'il a écrit. Il est extrêmement critique au niveau littéraire sur sa poésie. Il envoie tout balader. Il dit que c'est de la vieillerie poétique, que vraiment c'est ridicule, que c'est des choses niaises au possible. Donc il dit qu'il prend une expression égarée et bouffonne au possible. Il utilise ce terme pour parler de sa poésie. Et donc, moi, c'est des choses évidemment que j'ai vécues au collège, au lycée, toutes ces angoisses-là. Donc, ça me parle, forcément. Après, il y a d'autres thématiques aussi qui sont sur la question, là, pour le coup, du genre.
C'est incroyable.
Et lui, c'est un homme, mais en même temps, les questions qu'il se pose, donc ses premières questions, ces thématiques, elles ne sont pas genrées du tout. Donc, il n'y a pas de légitimité à être un homme ou une femme. C'est un ado, torturé. Donc ça, il n'y a pas de genrisation à faire là-dessus. Et en plus, au-delà de cela, il se pose énormément de questions sur ce que c'est que la masculinité, ce que c'est que la virilité. Il parle de ses pères qui étaient scandinaves, qui se perçaient les côtes, qui se tatouaient. Donc il est très dans ce questionnement-là. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Donc sur la virilité aussi, il a beaucoup, beaucoup de propos qui sont là-dessus.
Il ne faut pas oublier que son père est parti, il avait 6 ans. Donc forcément, il n'a pas de référent.
Et en plus, dans ce texte, il y a des moments où il se travestit complètement. Notamment, il y a une partie qui s'appelle l'époux infernal, où il se présente, il est une femme qui attend son époux infernal, mais cet époux infernal, alors on pense à Verlaine, bien sûr, mais c'est surtout lui-même, c'est une sorte de démon. Et il est une sorte de femme gentille, douce, qui l'attend, qui l'espère, mais en même temps qui le possède, il lutte contre lui-même, donc c'est un peu schizophrénique. Il est donc cette espèce de femme qui aimerait être un homme, on lui impose d'être un homme, il est extrêmement... Et en même temps, les sentiments qu'il développe, c'est des passions qui, au XIXe siècle, sont considérées comme des sentiments purement féminins. Ces enflammements, cette pulsion, cette envie de vraiment de ressentir les choses, c'est clairement ce qu'on appelle à l'époque des comportements de femmes. Donc en cela, finalement, moi l'interpréter, pourquoi pas, parce qu'il ne se sent ni homme ni femme, voire peut-être même un peu plus femme qu'homme au vu de ses émotions, de sa sensibilité. Donc chercher sa place, c'est vraiment compliqué pour lui.
Oui, dans plusieurs endroits dans le texte, il se place, lui, autant que femme. La narration continue, comme je deviens une vieille fille à avoir peur d'aimer la mort. Dans plusieurs citations où la transition est directe, il parle, et comme il est capable de dire dans une phrase, et j'étais bien comme avec une femme. Et donc, c'est vraiment, il est multiple, il a plusieurs points de vue. La question du genre, moi, elle me semblait pas du tout, et surtout dans le théâtre, c'est le monde de travestissement. Donc, et l'idée de trouver une mise en scène de ce poème aussi, ce n'est pas une lecture. C'est ce que je voulais appuyer, ce n'est pas une lecture de texte, puisque j'ai travaillé sur une scénographie qui permet d'avoir un dispositif. Bon, je ne peux pas trop vous le décrire, venez vous le voir dans la pièce.
Il est bien commercial. Hein, quand même.
Mais par contre, c'est un dispositif, on a appelé l'esprit, et c'est Élise qui l'a baptisé comme ça. Et ce dispositif, il évolue avec la pièce, et il permet un récit visuel un récit en mouvement parallèle au récit de narration du texte. Et je pense que, qu'il était très très nécessaire de trouver quelque chose qui, comme ça qui peut accompagner le spectateur, sinon on risque de tomber voilà, dans la lecture. J'aime beaucoup les lectures poétiques, mais ce n'est pas l'idée. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est essayer de trouver cette réalité qui existe dans la tête du poète, en fait, et non pas sa vie, mais dans sa tête, il y a forcément une réalité qui s'exprime à travers ce poème, et donc la mise en scène devient comme ça une tentative de rendre vraie cette réalité existante, et la scène devient le lieu donc, de cet imaginaire. Donc voilà, les mots ici ne sont que le reflet de ce qui est indicible, c'est comme un fil invisible qui lie la comédienne et au poète et le spectateur.
Tout à l'heure, Élise, tu parlais justement du lien avec homme-femme, qui n'était pas forcément genré, quoi, en fait, dans son écriture. Bon, qu'il a une relation particulière avec sa mère, très forte. Bon, père fuyant, mère possessive, on connaît l'histoire. Bon,
oui, c'est un peu facile. Une mère qui est extrêmement traditionnaliste, c'est en ça, fait, en dans plus. La religion catholique.
C'est surtout ça, oui.
Qui ne voulait pas d'ailleurs d'une école publique, car considérée comme trop laxiste. Et puis finalement, ça se passe mal en école privée. Il est remis à l'école publique. Et là, on lui fait étudier Victor Hugo. Et là, d'un coup, ah non, Victor Hugo, non, c'est un auteur, ce n'est pas possible. Mmh. C'est trop laïque, c'est païen.
Mais en même temps, elle va financer son recueil de poèmes.
Il y a de l'amour aussi. Voilà. Hein, de toute façon, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est très bien que Céline ait lu tout à l'heure ce premier poème sur la musique et les bourgeois.
La musique.
Oui, de Charleville qui viennent là, non pas pour écouter de la musique, mais pour parler affaires ou pour montrer qu'ils sont là, quoi, tout simplement. Hein. On pense à Brel là. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est Une saison en enfer. C'est à la fois son œuvre littéraire, mais il arrête d'écrire à partir de là.
Oui, effectivement.
Il va vivre une autre vie, quoi.
Exactement. Ah. Il va partir. Et c'est une autre raison aussi pour laquelle je me suis trouvé dans le texte, puisqu'il y a la place pour nous, en fait, pour les orientaux. Il y a des grands passages où il évoque les enfants de Cham, le Levant, ce qui représentait l'Orient pour lui et ce qui était très très. On va dire très réparateur pour moi, puisque nous, malheureusement, en Orient, quand on nous cherche à l'Occident, on nous retrouve dans des endroits pas très confortables. Et parfois, on est attaché à des textes où, quand même, il y avait cette idée de l'Orient rencontre, l'Orient mystique. Peut-être c'est une idée exotique, on va dire. Mais lui, il n'était pas dans cet exotisme. Il a voulu, en tout cas, il a eu le courage d'aller voir sur place. Ouais. Et il est allé. Après, il en a payé le prix de sa vie, mais c'est la question de tous ceux qui écrivent, en fait, que moi aussi je me sens concerné par cette question. Quelle est la plus importante? Est-ce que la littérature ou la vie?
Voilà, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, on comprend pourquoi Rimbaud était aussi, je pense, au slogan « Changer la vie ». Il faut se rappeler qu'en 81, c'était le slogan du Parti Socialiste, hein, et que ça répondait à mai 68 et cette volonté d'aller justement vers l'Orient. Hein, je parlais des hippies tout à l'heure qui partaient alors soit en Inde pour aller découvrir la vérité là-bas, la sagesse et tout, soit au Maroc, puisque le Maroc était un lieu d'accroche, notamment par les Américains, pour les Américains qui fuyaient la guerre, le roulement de la guerre, vers des sagesses orientales, quoi, en fait.
Hein, ils n'ont même pas besoin de voyager, ils peuvent voyager en Orient en absorbant des substances.
Oui, alors cette aussi, c'était la consommation de drogue, ils en parlent du pavot,
exactement, voilà,
et qu'il en a trop pris même.
Et ça fait partie aussi pour ce qui est de Rimbaud, en revenant à Rimbaud, par exemple la peinture, c'est l'orientalisme qui domine à ce moment-là, beaucoup la peinture, parce que il découvre des lumières, des sensations liées à la peinture qui sont très très fortes par rapport à des gens qui sont habitués, alors pas aujourd'hui parce qu'il y a du soleil, mais à vivre dans des pays moins lumineux, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette quête de l'Orient qui est quelque chose dans l'air du temps aussi à cette période, et il en parle évidemment dans Une saison en enfer, qu'il rêve du royaume des enfants de Cham, et après il écoute ce qu'on lui retourne, comme les philosophes lui diraient qu'il est libre d'habiter dans son Orient, aussi ancien qu'il lui le faille, et d'y habiter bien, mais en restant en Occident. Donc c'est assez rigolo.
Donc c'est un personnage à des entrées multiples, hein. Donc il est intéressant d'aller voir. Alors.
J'ai eu une idée comme ça, mais ce n'est pas grave, ça, je pourrais la placer dans un autre moment, c'est en rapport avec le texte, un passage qu'elle va lire à Élise, mais peut-être je me dis, est-ce que c'est le moment de faire cette lecture, ou peut-être c'était un passage musical.
On peut écouter un petit peu de musique, ça nous détendra. Alors j'hésite entre deux musiciennes, l'une est tout à fait intéressante, je l'ai aussi redécouverte en cherchant l'illustration musicale, c'est une musicienne qui s'appelle Safo, qui est une chanteuse d'origine marocaine, juive marocaine, et qui est quelqu'un qui a un art lui aussi universel et qui a été inspiré par notre poète. Paf, ça se termine par un coup de feu, dis donc. Alors, ça, c'était Safo. Alors, Safo, comme je disais tout à l'heure, c'est une femme qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, qui était très, très, qui tournait beaucoup, et qui maintenant écrit aussi beaucoup. Hein. Donc, on évolue dans son art et on peut s'exprimer de multiples façons. En parlant d'artistes, j'en ai une devant moi, qui s'appelle Élise Monio, et qui, bien sûr, interprétera, elle est intervenue tout à l'heure, elle interprétera Arthur Rimbaud. Alors ça, c'est quand même incroyable, moi je vous assure, hein, c'est bien une Élise que j'ai en face de moi, et pas un Élie. Et donc, elle a été prof d'histoire géo, la pauvre, 15 ans, c'est dur. Ouais. Comme quoi, le professeur amène à tout, à condition de s'en sortir, c'est ça, ouais.
Non, c'est une très jolie période de ma vie. Voilà, mes 15 ans, j'ai eu envie aussi de faire d'autres choses. J'ai toujours fait beaucoup de théâtre depuis mes plus jeunes années. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire une formation aussi dans ce domaine-là et donc de basculer ensuite vraiment dans ce milieu qui est tellement vivant, tellement incarné, qui est tellement aussi généreux. Pour soi, pour les autres évidemment, parce qu'on est à la base sur un don de soi, mais ça nourrit énormément et voilà. Donc après, c'est un deuxième temps de la vie, une deuxième page et voilà, et c'est très très joli. Et là, c'est vrai que Arthur Rimbaud, se trouver face à cela, c'est magnifique, hein. C'est un texte qui est. Je remercie vraiment Abdulrahman de me l'avoir proposé.
Parce que je t'en prie, c'est moi qui t'aurais aussi accepté.
Et on travaille d'ailleurs actuellement aussi sur un autre projet ensemble qui s'appelle La foi coloniale.
Bah, tu es obligé de revenir. Hein.
Voilà.
Oui, on est ravis de l'avoir au collectif Estragon avec nous, en vérité. Donc, elle travaille sur plusieurs projets. parfois dans l'assistant de mise en scène ou comédienne ou
comme ou tu sais Jean-Pierre aussi.
Nous, on est dans une petite compagnie et du coup on fait tout, moi je passe le balai.
Alors la compagnie, il faut la nommer quand même, c'est la compagnie des Estragons, donc ça fait une cuisine sympathique.
Voilà, collectif Estragon
qui rassemble justement des horizons, des gens qui viennent d'horizons différents mais qui sont intéressés quand même à des sujets. Tu n'es pas prof d'histoire pour rien et tu n'interviens pas sur en tant que comédienne sur ces pièces pour rien non plus. Et d'ailleurs, on en parlera si on a le temps tout à l'heure d'un projet qu'on a tous ensemble là pour le mois de mars. On verra ce qu'il en est. Donc Élise, on te connaît un petit peu mieux. Merci d'être là déjà. Donc j'allais te dire, merci, mais tu travailles aussi sur la foi coloniale. Mais bon, c'est fait. Abdulrahman, dès qu'il prend la parole, il est pire que moi. Donc c'est pour dire. Mais il dit des choses toujours agréables, une voix magnifique en plus. Donc là, c'est un gros boulot pour toi, je suppose. Tu parlais d'absorber, mais pour absorber, intégrer et redonner, en fin de compte, ce que tu avais absorbé, justement.
Oui, alors ce qui n'est pas évident aussi avec Rimbaud, qui m'interpellait, au-delà de la question de l'apprentissage du texte, bien sûr, qui est très dense, mais c'est surtout, justement, comment j'allais l'absorber. Qu'est-ce que ça allait susciter chez moi comme réminiscence de passé, parce que ces questions-là, elles sont vraiment extrêmement puissantes, violentes. Cette question de la mort, quoi, de ces angoisses. Et il dit, j'aurais pu mourir, affreuse évocation. Mais oui, mais c'est une évocation qui sera réelle un jour. Et donc, ça, c'est vrai que ça touche à l'universel, de toute façon. C'est cette question-là, mais le collectif Estragon, à chaque fois, ce sont des pièces qui sont très engagées, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Là, on est dans une pièce qui n'est qu'engagement. Engagement politique aussi à sa façon, parce que c'est un refus des valeurs établies, c'est un refus de la condition sociale. Et donc, c'est pour ça que je voulais lire un passage, alors de façon un petit peu appuyée, bien sûr, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on va présenter avec juste la voix, bien sûr.
Alors donc je le redis encore, parce que donc une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, c'est un spectacle qui est proposé le 15 et le 16 décembre à 20h30 et puis le 17 décembre à 16h au Théâtre du Levin. Et c'est fait par le collectif Estragon, mise en scène Abdulrahman Khalouf, et puis Mourbonio qui va nous citer un extrait, si je puis dire.
Alors c'est un extrait de la partie qui s'appelle Mauvais sang, qui est la première partie après une introduction qu'a faite Rimbaud. Et donc voilà, on y va. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. Deux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices. Colère, luxure. Magnifique la luxure. Surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tout paysan, ignoble. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels me dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intacte, et ça m'est égal. Mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle est guidée et sauvegardée jusqu'ici ma paresse? Sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la Déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils de famille. Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France. Mais non, rien. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tués. Je me rappelle l'histoire de la France fille aînée de l'Église. J'aurais fait, manant, le voyage en Terre Sainte. J'ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solim. Le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi mille féeries profanes. Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. Plus tard, reître, j'aurai bivaqué sous les nuits d'Allemagne. Ah, encore, je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants. Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé, mais toujours seule, sans famille. Même, quelle langue parlais-je ? Je ne me vois jamais dans les conseils du Christ, ni dans les conseils des seigneurs, représentants du Christ.
Ah, merci, hein. J'étais parti avec toi.
Ah,
là,
j'étais loin.
Ouais, donc, je le rappelle encore une fois, donc c'est une saison en enfer. Et puis, c'est mis en scène par Abdourahman Kalouf et Élise Moniaux qui vient de nous en donner un petit extrait. Alors, c'est formidable. Donc, ouais.
En fait, c'est marrant parce que quand on voit les portraits d'Arthur Rimbaud, il était toujours aussi jeune, visage angélique. Et avec ta voix, bah, en fait, ça colle super bien. Je voyais Arthur Rimbaud.
Ah bah c'est,
mais vraiment,
c'est super parce que c'est un peu le but, et en effet,
parce qu'il est, c'est vrai qu'il était comme ça, un peu enfantin,
enflammé, ouais. Voilà. Mais voilà, on a voulu aussi donner, avec évidemment la direction d'Abdourahman, cette impression déjà que le phrasé est naturel et que il est vraiment ressenti, qu'il y a quelque chose, vraiment, il y a une urgence chez Rimbaud dans ce texte. Il est en panique complète. Et il faut vraiment qu'il exprime ça, parce que ça explose en lui. Et il s'en est à se taper la tête contre les murs. Et donc ça, je pense que voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, tout en l'intériorisant, sans non plus partir dans des extrêmes, à hurler partout, parce que ça peut être très insupportable. Et en même temps, il n'est pas là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'il se dit en violence, mais en interne. Donc c'est cet équilibre qui est pas évident, mais qui est magnifique, vraiment.
Alors, vous connaissez tous Ernest Pignon-Ernest, hein ?
Oui, bien sûr.
Voilà, donc qui a fait, qui est un peintre affichiste.
Et il a fait une représentation de Rimbaud qui est magnifique.
Qui est la représentation de Rimbaud que j'ai eue parce que je l'avais rencontré, tout ça, et que je ne sais plus où je l'ai mis, ainsi va la vie, quoi.
Il l'avait accroché
magnifique,
partout,
magnifique. Et d'ailleurs, il a continué, hein, j'ai celle d'Aragon, il en a fait plein d'autres.
Pasolini aussi, qui est magnifique.
Voilà, il a fait Zola aussi sur le J'accuse, etc. Et c'est un grand bonhomme, hein, c'est un grand artiste, alors français, ce n'est pas le terme, mais enfin, un grand artiste, qui a été peint sur tous les murs, là y compris où il y a des conflits. Et on pense à Banksy, le collectif Banksy ou Banksy, on ne sait pas trop qui il est, qui suit ces traces-là. Alors lui, avec de la peinture, et pas avec des affiches. Donc c'était c'est l'art éphémère, en fait, hein, on va dire, et le street art qui a un contenu fort, hein, de fait. Hein. Donc ce personnage iconique, hein, qu'est Rimbaud, c'est pas étonnant qu'il soit atemporel, en fait.
Pour conclure cette émission, on vous remercie déjà beaucoup tous les deux, Abdourahman Kalouf, metteur en scène, écrivain, poète, et puis Élise Moniaux, qui est la comédienne, hein, qui interprète ce texte de Rimbaud, Une saison en enfer. On va se quitter en écoutant une chanson de Patti Smith, qui est une fervente admiratrice de l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Elle l'a rencontré quand elle avait 15 ans, et notamment cette saison en enfer et ce recueil qu'elle vient de publier, une version qu'elle a revisitée avec son talent. Rappelons que Patti Smith, en plus d'être une grande chanteuse de rock, est aussi une photographe reconnue. Donc, comme elle le dit, Une saison en enfer a été pour moi une drogue de jeunesse, comme un concentré de haschich ou une bonne dose d'alcool. Ce sont ces mots, hein, qui sont inscrits sur la quatrième de couverture de son nouveau livre, qui vient de sortir en septembre. Alors, rappelons qu'elle est née en 1946 aux États-Unis, qu'elle découvre donc très tôt Arthur Rimbaud, son recueil de poèmes, Une saison en enfer. Et elle va d'ailleurs je l'ai découvert en vous proposant cette musique, être propriétaire de la maison d'enfance de Rimbaud à Roche dans les Ardennes. Et elle y va très très souvent. Et elle a, devant la maison, il y a une plaque où il y a marqué « Sur ces lieux, Rimbaud a espéré, a désespéré et souffert. »
A face pressed to mine, a black hole planting a kiss, an uproarious cry. It was not cruelty, not even insult, but a quirky form of universal love, an impulse of great narcotic joy. I sought my kind and found none. How you rescued me, your peasant hands reaching through time, wrapping my young heart. Your poems, found in a stall by the Greyhound station, I dogged, dreaming of escape. Words I could not comprehend, and yet, deciphered by blood, illuminated adolescence. I wrote with the image of you above my work table, vowing one day to trace your steps, dressed in the watch cap and coat of my present self. This morning, pulling into your town, I walked the streets that you despised, the streets I love, for you having despised them. I will go to this train station in Roche. I will touch the remains of the walls of the farmhouse where you wept a season in hell while your sisters harvested the fields. I will walk the road you raced as a sturdy limb boy, the road you were carried on with one leg, face down on a litter, flanked by misery, who love no company. I will be there at the train station. I will piss in the urinal you pissed in. A young man cursing existence, and then a dying man. I will squat and rise. I will stand. I will give you my limbs, no longer young, but sturdy all the same. I project from the urinal to Marseille that you gave glory, and they just tossed it away into the river. A discarded wreath where rats sit, using it for a nest. A. Rimbaud, the rat poet laureate. A rat is all I have been, scurrying through the streets of the city of brotherly love. I am here, my brother. I am here where you were. And I feel as if I could find you waiting. Everyone wears a corpse around their wrist, just a bit of twine, but a corpse all the same. A dead thing proclaiming, I have you and you. I will snip all these things and hurl all rings in the urinal you knelt in. Your tears made it overflow. All the sewage covered the station and made you shudder. That was as close as a laugh as you could get to. The image of a shit-covered wagon. You stood clad in white, trembling. This is what I know. I am here for a purpose. The purpose changes. Gifts that are not mine. Children who are not mine. An angel who is not mine. And this, to meet you at the urinal and draw you upright in my arms. I am still sturdy. This memory may enter me, and I will realign the clay of my being. Will be you. Muscle shall be ours. All limbs intact. All brutal mirrors cracked. I am here, and that is something. I am here, my friend, and have always been, as much as for any living thing.
Merci à Abdulrahman Khalouf, à Élise Moniaud, sans oublier Céline, sur sa chronique Rimbaud et la Commune.